Radio-Canada, audio.
Penser que j'avais sur ça comme bégayer, c'est pas correct, tout ça. Mm. Puis ça m'a aidé vraiment beaucoup.
Ah, oh, c'est nice.
Qu'il y a du bégaiement dans ma parole. Même, je trouve que des fois, c'est beau, tu sais, puis que je peux rentrer.
Même que des fois, c'est beau.
Mm.
J'accepte qu'il y a du bégaiement dans ma parole, même que des fois, c'est beau. Ça, là, c'est extraterrestre, ce que tu dis là. Explique-moi ça, je comprends pas.
Mm-hmm, avec plaisir.
En plus, là, je comprends encore moins.
Geneviève est une des deux animatrices du balado « Je suis un podcast ». Elle est orthophoniste et chercheur dans le domaine du bégaiement. Mais très vite, j'ai compris que c'est pas principalement à ce titre-là que j'avais envie de la rencontrer. Je suis tombé sur ce clip-là où elle dit, parce que je comprends pas pourquoi on voudrait mentir à propos de ça, donc j'ai pas le choix de la croire.
Maintenant, j'accepte qu'il y a du bégaiement dans ma parole. Même, je trouve que des fois, c'est beau, tu sais.
Je savais pas que c'est des mots que la grand-mère française permettait de mettre dans la même phrase.
Avant, tu sais, j'avais tellement honte de mon bégaiement. Là, je l'ai caché jusqu'à 22 ans. Puis au moment où j'ai commencé à moins le cacher, mais tu sais, ça a été tout un parcours. Puis ça l'est encore maintenant. Là, tu sais, j'ai encore de l'auto-stigmatisation, puis j'en aurai sûrement tout le temps. Mais là, ce que j'aime, c'est que j'ai une approche de mon bégaiement qui est nuancée, qui est riche. J'aime être avec des personnes qui bégayent. J'aime les voir bégayer. J'aime... tu sais, je trouve ça beau. J'aime... J'aime ça quand quelqu'un bégaye, puis on se regarde, puis on fait juste attendre. T'sais, je trouve qu'il y a de la richesse dans ces moments-là, que ça crée des possibles dans un monde où la parole va super vite, où on est souvent pressé. Puis il y a Sam Simpson, qui est orthophoniste, qui a collaboré aussi au livre « Bégaiement entre fierté et préjugés », qui racontait que... elle accompagnait une personne comme orthophoniste. Puis cette personne-là disait que dans son milieu de travail, les gens parlent super vite, se coupent la parole. Puis lui, dans une rencontre, il a dit « J'aimerais ça parler des habitudes communicationnelles qu'on a. Moi, comme personne qui bégaye, c'est vraiment difficile de se joindre à ces conversations-là, de me faire couper la parole. J'aimerais ça pour moi, en fait, que l'environnement soit plus posé, qu'on ait peut-être... qu'on attende que la personne termine de parler. Tu sais, oui, il y a les limites du temps, puis il y a tout ça, bien sûr, mais ce que Sam Simpson racontait, c'est que le bégaiement dans cette situation-là a eu un pouvoir générateur de développer des nouvelles habitudes plus saines dans ce contexte-là, tu sais. Donc, ça l'emmène une réflexion sur notre manière de communiquer, de parler. J'étais dans un événement sur le bégaiement récemment, puis il y a une orthophoniste qui bégait pas, qui disait qu'elle a participé à un camp de jour pour gens qui bégaient. Puis elle disait, j'ai tellement appris sur qu'est-ce que ça veut dire de bien écouter, d'être une bonne interlocutrice, t'sais, de vraiment prendre le temps de se poser. Puis ça, il y a quelque chose de vraiment riche que je pense que les personnes qui bégaient peuvent apprendre à la société. Fait que... ça, c'est des exemples de beauté. Puis je pas, tu sais, je raconte pas tout ça pour essayer de te convaincre. C'est juste pour montrer qu'il y a différentes conceptions possibles, tu sais. Puis quelles sont les conceptions qui te parlent, en fait. Parce que c'est bien correct si après notre conversation, toi, tu te dis,
OK. Tu sais, je
comprends que ça existe.
Je comprends que ça existe. J'ai découvert ce territoire-là sur la carte.
Ça m'intéresse pas d'y aller pour le moment ou jamais. Non. C'est bien correct, là. Il y a des gens qui aiment pas aller à Cuba. Il y a des gens qui aiment pas aller.
J'aimerais ça aller à Cuba. C'est pas que je veux pas y aller. C'est que, peut-être à force de me taper dessus, j'ai l'impression d'avoir un casier judiciaire qui m'empêche de quitter le Canada. En marchant vers chez moi suite à la démonstration que Anne m'a faite du Solution Focused Brief Therapy à la fin du dernier épisode, j'étais ambivalent. La thérapie est vraiment intéressante et j'ai eu l'impression d'en apprendre un peu plus sur moi, mais en même temps, j'avais une petite dose de frustration et ça m'a pris un bon kilomètre et demi avant de mettre le doigt dessus. Oui, on parle d'objectifs à atteindre, mais le focus est davantage sur ma relation avec le bégaiement. Moi, je veux pas avoir une belle relation avec mon bégaiement. Je veux pas de relation, point. Je veux juste pas bégayer. Orthophonie. Le mot le dit, parler droit. Soudainement, je m'ennuyais des babibibobus de la madame en troisième année. Je pouvais pas croire que l'orthophonie, comme science, avait baissé les bras sur la fluidité. Et c'est effectivement pas tout à fait le cas parce qu'une des grandes familles de thérapie en orthophonie s'appelle la modification de la parole, qu'on appelait jusqu'à récemment le façonnement de la fluidité. Bon! J'ai parlé de tout ça à Anne en spécifiant que, pour l'instant, j'aimerais mieux me diriger vers l'aspect moteur, vers le façonnement de la fluidité. Et j'espérais qu'en utilisant comme ça les termes orthophoniques officiels, j'aurais moins l'air désespéré que si je lui avais juste dit « Anne, je veux plus bégayer. Faites quoi? » Je pense pas qu'elle a été dupe, parce que lorsqu'elle a accepté de me présenter la technique Camperdown, du nom de la banlieue de Sydney où le traitement a été conçu, Anne avait un peu l'air de « OK, tu l'auras voulu. »
Donc, je m'appelle Michel Montreuil. À toi.
Je m'appelle Michel Montreuil.
Est-ce que tu sens que c'est possible de bégayer ou c'est impossible?
J'ai jamais eu le doute à aucun moment de ça.
OK. On va y aller avec la deuxième phrase, mm-hmm. puis après, tu vas enchaîner les deux, sans que je te donne le modèle. Je suis réaliste.
L'attitude de Anne passait tranquillement de « tu l'auras voulu » à « tu vois, j'ai réussi à ce que tu bégayes plus, maintenant, chale-moi plus avec ça. » Et pour ceux qui croiraient présentement que je prête des intentions malsaines à Anne, que je fais juste de la projection finalement, et qu'elle est en réalité un exemple de professionnalisme, je vous répondrai que vous avez tout à fait raison. Mais je sentais que le piège de Anne se refermait tranquillement sur moi, qu'elle était en train de prouver un point que j'aimerais pas. Je me devais de rester vigilant.
Balado.
OK.
Donc, si je veux enlever l'humiliation, c'est pas ça qu'il faut faire, là.
En tout cas, pas devant les gens.
Je comprends.
Mais graduellement, ce programme-là, au fur et à mesure que c'est pratiqué, il y a une certaine partie qui s'automatise, puis la personne intègre un peu le feeling que c'est. Okay. Parce que avec ce que je viens de te démontrer, qui est vraiment pas naturel, ça serait impossible de bégayer.
Okay.
Pour certaines personnes, ce feeling-là est totalement nouveau.
OK.
Et là, c'est de prendre ce feeling-là et de l'amener vers une quantité de stratégie qui est beaucoup plus acceptable socialement.
Je comprends.
OK. Donc, là, moi, je t'ai montré sur l'échelle de technique de fluidité, c'était du 8. On pourrait descendre comme au milieu.
OK. Okay?
Puis tu vas le faire comme moi. Je m'appelle Michel Montreuil.
Je m'appelle Michel Montreuil.
OK. Mm-hmm. Est-ce que tu as été capable de ressentir le même feeling que tu pouvais pas bégayer?
Oui, absolument.
OK. Je suis réalisateur de balado.
Je suis réalisateur de balado.
Est-ce que tu as senti que tu allais être fluide?
Oui.
Oui?
Absolument.
Puis si on va dans encore plus naturel, je m'appelle Michel Montreuil, je suis réalisateur de balado.
Je m'appelle Michel Montreuil, je suis réalisateur de balado.
OK.
Pas le moindre doute.
Tu étais certain que tu allais être fluide?
Sûr et certain.
Parfait. Donc, la prochaine étape, c'est de trouver un équilibre, d'aller chercher la quantité de stratégie que tu as besoin pour être fluide.
Je comprends.
Parce que quand tu parles comme ça, est-ce que tu penses que les gens se rendent compte que tu parles pas comme d'habitude?
Oh, bonne question. Je l'ai pas écouté en fonction de ça.
OK.
Maintenant, je pense que je peux reproduire l'effet présentement, et je n'ai pas de doute quant à mon bégaiement. Okay. Maintenant, excellent. Est-ce que je me permettrais ceci dans une véritable discussion? Je ne sais pas. Par contre, je peux dire que pour commander quelque chose, soit par téléphone ou à la commande à l'auto d'un restaurant, peut-être que je pourrais utiliser ce genre de choses-là parce qu'effectivement, je sens que je suis en plein contrôle.
Bonjour,
je prendrais un trio Big Mac avec un Coke Zéro. Ensuite, un quart de livre avec fromage et un sundae au chocolat, pas de noix, s'il vous plaît.
J'aimerais remercier ma copine ici d'avoir choisi le quart de livre avec fromage qui, à cause du son K, était particulièrement difficile à placer.
Merci à vous. Et merci, Camperdown.
Mais il y a quelques limites à la technique Camperdown. D'abord, il faut penser d'utiliser. J'imagine que ça peut devenir un automatisme, mais dans ce cas-ci, ma préparation mentale s'arrêtait après avoir commandé. Erreur. Lorsque je suis arrivé au deuxième guichet, le fameux quart de livre avec fromage manquait à l'appel et là, j'ai pas eu le temps de me préparer.
J'avais autre chose aussi? Avec un quart de livre avec fromage, s'il vous plaît. Donc, une grande leçon de la vie. La technique fonctionne, mais il ne faut pas que la fille se trompe dans ta commande.
Mais il y a aussi l'inverse de la technique Camperdown, la technique 2G2A, geste de grande amplitude articulatoire, qui, elle, va à l'autre extrême du spectre.
Je m'appelle Michel Montreuil. Je suis réalisateur de balado.
Comment tu trouves que ça sent?
Ben, trop exagéré, évidemment.
Oui. OK.
Ça vient avec un personnage que j'emploierais pas à tous les jours, là, quand même. Ça peut avoir l'air un peu agressant.
Ouais. On va essayer de le diminuer un petit peu, oui, puis de garder ce même feeling de contrôle-là.
Très bien. Je m'appelle Michel Montreuil, je suis réalisateur de balado.
Ça, comment ça sonne à l'intérieur de toi? Comment tu le ressens?
C'est simple.
OK. Puis comment tu penses que c'est perçu par quelqu'un qui t'écoute?
Ça vient avec un ton de... un peu de fausse assurance. Mm-hmm. J'imagine qu'à force de diminuer, je pourrais me retrouver devant quelque chose de plus utilisable, genre ce que je fais présentement.
Ouais.
Et c'est exactement ce dont je parlais dans le dernier épisode à propos de l'importance du ton. Parce que je me souviens de plusieurs fois où j'ai l'impression assez convaincu d'avoir passé pour quelqu'un bien au-dessus de ses affaires, au point d'avoir l'air carrément snob, alors que ce que je faisais, dans le fond, c'était d'appliquer instinctivement ce genre de technique-là. Parce que c'est vrai qu'il y a des tons qui te rendent plus fluide que d'autres.
J'ai l'impression que c'est pas le même niveau de conscience.
Mm-hmm.
Que là, je suis dans une forme de performance. Cette espèce de structure-là m'aide à être plus fluide,
oui,
mais je perds un peu... comme présentement, en lien avec moi-même. Je sens qu'il y a quelque chose de moins vrai.
De moins authentique.
Oui.
Comme quoi, aussi efficaces que ces techniques-là peuvent sembler en ce moment, je sens qu'il y a quelque chose dans le prix à payer pour les utiliser qui m'éloigne de moi, en me faisant entrer dans une espèce d'esprit sportif de performance que je serais clairement pas capable de maintenir à long terme parce que, veux pas... c'est une prise de contrôle assez intense. Et c'est d'ailleurs ce qui semble être la faiblesse des techniques de façonnement de la fluidité. C'est une prise de contrôle consciente.
Petite question, par contre.
Ouais.
Ça me rajoute une stratégie.
Ouais.
Alors que un des problèmes que j'ai l'impression que j'ai, c'est que quand j'arrive dans une situation réelle, j'ai trop de stratégies qui arrivent en même temps.
Ouais.
Donc, est-ce que, à long terme... on est juste en train d'empirer le problème présentement ou si on le règle? Je pose la question, je ne sais pas.
Ça dépend comment tu l'utilises.
OK.
Si tu utilises ces stratégies-là pour pas que ça paraisse que tu es une personne qui bégaye,
mm-hmm,
c'est sûr que tu empires le problème.
Okay.
Parce que tu es en train de te mettre une méga pression de performance qui va justement faire chuter ta performance.
Tout à fait. Oui, bien ça, c'est en plein moi.
OK.
Et c'est à ce moment-là que l'aspect psychologique rentre.
Tout à fait.
OK.
Fait que pour revenir à toi, bien, c'est sûr, tu pourrais faire toutes les stratégies du monde, comme en théorie, bien, je suis pas d'accord, mais en théorie, tu pourrais parler lentement tout le temps d'une manière où c'est physiquement impossible de bégayer, mais tu sais, ça couperait quelque chose à ta communication.
Tout à fait, tout à fait.
Puis les recherches de Chris Constantino sur ça, ça porte sur la spontanéité versus la fluidité, tu sais. Tu peux, comme personne qui bégaye, tu peux accéder à une fluidité qui n'est pas la même fluidité qu'une personne qui bégaye pas. C'est-à-dire, c'est une fluidité pas spontanée, tu sais. Puis c'est un sacrifice à faire dans ta communication, tu sais. Moi, je sais que je suis quelqu'un de très spontané, naturel. Tu sembles être comme ça aussi. Puis tu sais, ça serait triste de couper le monde de ça, là. Puis ça nécessiterait que tu te concentres vraiment fort.
Mm-hmm.
Puis là, tu serais pas en train de te concentrer sur tes propos. Tu serais en train de penser à « OK, j'enchaîne les mots », tu sais. Puis les recherches de Chris Constantino montrent que, tu sais, ce qui importe le plus dans le bien-être d'une personne, c'est sa spontanéité. Et non pas « Est-ce que je suis fluide », tu sais. Fait qu'en théorie, ça serait pas impossible, mais à quel prix, tu sais? Puis pourquoi, dans le fond? Puis moi, je trouve que ça serait triste, puis tu priverais le monde d'une bonne partie de toi, tu sais.
Quand on s'intéresse au fonctionnement de la parole normale, tous les muscles qui sont impliqués, puis toutes les aires cérébrales qui entrent en jeu, le nombre de mouvements, la coordination précise qui est nécessaire, c'est même surprenant qu'il n'y ait pas plus de personnes qui bégaient.
Lors de son exposition des causes du bégaiement, Anne avait parlé de l'aspect moteur de la façon suivante.
Quand on veut, mettons, dire un mot, on va lancer une commande motrice. Et là, dans la parole normale, on envoie notre commande motrice, puis on dit notre mot, et ça donne ce que c'était supposé donner. Donc, ça va amener une confirmation de la commande motrice. Dans le cas du bégaiement, ben là, il y a une commande qui est envoyée, mais le résultat n'est pas ce qui est attendu. Donc, ça va amener une instabilité dans le système moteur et ça pourrait, par exemple, amener à se fier plus sur le feedback auditif. Donc, être comme, ah, ben là, tu sais, je suis pas sûre, je m'écoute. Puis moi, même comme personne fluide, quand je me mets à m'écouter de façon très rigoureuse, je suis dysfluide parce que je mets comme trop d'attention sur quelque chose qui devrait être automatique.
Et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant parce que j'avais déjà entendu ça, mais dans un tout autre contexte. Ça m'a ramené plusieurs années en arrière à l'époque où j'étais pianiste accompagnateur pour des cours de chant. Je me souviens que mon amie Nathalie-France Forêt, qui était professeure de chant, m'a dit quelque chose de semblable à une de ses élèves. Que les tensions dans la voix venait du fait d'envoyer la même commande deux fois au cerveau.
Quand on veut bien chanter, un des problèmes, c'est qu'on veut bien chanter. Ce qui fait qu'il y a une deuxième information qui vient se pointer le nez et qui a l'intention de contrôler la situation. Et quand elle a l'intention de contrôler la situation, elle vient exécuter par-dessus le mouvement du chant de base. Et donc, là, ça vient court-circuiter ce qui était en train de se faire de façon tout à fait fluide. C'est comme la chance débutant la première fois où tu tires à l'arc puis que c'est direct dans le milieu, c'est souvent simplement que tu as laissé la commande, tu as fait confiance au corps, tu as laissé la commande faire son travail, puis après, tu sais, c'était nouveau, t'as accepté de juste prendre toutes les informations puis t'as laissé ton corps exécuter les choses. Puis là, ben qu'est-ce qui arrive la fois d'après? Vu que tu l'as eu dans le mille, ben la fois d'après, c'est sûr que tu vas vouloir intervenir parce que là, t'as la volonté du résultat. Mais ça demande de raffiner ta commande plutôt que de raffiner ton intervention dans l'exécution.
Mais ça demande de faire confiance. Et c'est peut-être là où c'est difficile dans mon cas parce que le pacte de confiance entre mon corps et moi est fragile. Parce que mon corps, même quand je le laisse faire tout seul, a cette génétique-là quand même. Si je pense à rien et que je le laisse faire, souvent, je vais bégayer de toute façon. d'où le réflexe bien ancré de toujours contrôler un petit peu.
Une des croyances les plus profondes sur le bégaiement, c'est que le locus de contrôle est très fort. T'sais. Si la personne fait les efforts puis se concentre, elle serait capable de ne pas bégayer. Puis ça, c'est une croyance qui vient de plusieurs sources, autant du domaine médical, des anciennes thérapies, que les représentations dans les médias, nanana.
Et cette croyance-là, selon Geneviève, nous amène irrémédiablement vers la notion de la culpabilité. Elle dit que ça lui a pris beaucoup de temps avant de réaliser que c'était pas de sa faute si elle bégayait. Ça m'a d'abord surpris parce que je l'avais jamais mis dans ces termes-là. Je me souvenais pas d'avoir déjà pensé que c'était de ma faute. Puis ça m'a frappé que... Pourquoi je me tape dessus tout le temps d'abord, si c'est pas que je me sens responsable de comment mes mots sortent? Elle me fait réaliser que, oui, à quelque part, je suis convaincu que c'est de ma faute. Et que quand, dans le premier épisode, je dis...
J'ai récemment réalisé qu'une des choses qui m'empêche d'accepter mon bégaiement, c'est le fait que j'ai pas tant, au fil des années, exploré les possibilités de traitement.
C'est quoi qui est en dessous de cette phrase-là, si c'est pas... Ben, c'est ma faute si je bégaye encore.
J'avais tellement le sentiment d'être inadéquate, puis comme t'as dit, genre que tout le monde peut parler sans effort, puis pourquoi moi je peux pas tout le temps? Puis que le problème c'est moi, tu sais, c'est moi qui est pas assez bonne. Puis cette idée-là de faire honte à mes parents, puis de, tu sais, c'est quelque chose qui est resté avec moi pendant longtemps. Mon père est décédé, j'avais 16 ans. Il est décédé du cancer. Il est parti super vite. Puis mon père, c'était quelqu'un de vraiment silencieux, là, qui parlait pas beaucoup. Puis j'ai toujours attribué le fait qu'il parlait pas beaucoup, qu'il me parlait pas beaucoup, même si on vivait ensemble. J'ai toujours attribué ça au fait que je bégayais, puis qu'il avait honte, puis que ça le dégoûtait. Puis que, tu sais, là, je comprends là, qu'il avait ses propres traumas. C'est quelqu'un qui avait beaucoup souffert dans sa vie. Puis... Mais je me souviens, avant qu'il meure, il était à l'Hôtel Dieu à Québec en soins palliatif, puis j'avais écrit une lettre. Puis là, je voulais lui lire la lettre, tu sais. Mais là, il était sur la morphine, couché, tu sais, à 2 jours de sa mort, là. Là, je lis la lettre, puis je bégayais beaucoup, là, sur chaque mot. Puis il a dit... il a juste fait un signe de la main. Arrête. Puis là, j'ai arrêté de lire, puis j'ai interprété ça comme... Hey, si, genre... Il va mourir, puis je suis même pas capable de lire la lettre. Je tombe en poche. Puis je suis juste restée en silence, j'ai arrêté de lire, puis... Il est mort 2 jours plus tard, tu sais. Mais dans, comme... Il y avait tellement de non-dits sur le... Ben je pense qu'il y avait aucune idée à quel point... Bref, plein de non-dits entre nous sur le bégaiement et sur d'autres choses. Mais c'est pour dire hein, comment l'expérience d'être inadéquat vient chercher quelqu'un profondément. Puis là, je serais curieuse maintenant d'avoir des conversations avec lui sur ça. T'sais. Là, j'aurais l'assurance ou la confiance d'ouvertement pouvoir parler de ça. Puis je suis sûre qu'on aurait probablement des belles choses à dire.
C'est principalement ma rencontre avec Geneviève qui m'a prouvé qu'il était vraiment temps que j'aille vers les autres. Que si l'extérieur du bégaiement est des fois confrontant pour moi, l'intérieur, lui, est tout à fait familier. Et c'est donc dans cet échange-là que j'ai osé poser la question qui me fatiguait depuis le début de mes démarches.
À ma première thérapie, j'arrive là, et c'est une thérapie psychologique. Alors que je viens de décider, moi, de régler le problème. De faire ce qu'il faut pour essayer de régler le problème. Est-ce que c'est un échec de la profession, ça? C'est-tu un signe de l'échec de la profession que la première chose qu'on me propose, c'est de passer au-dessus du fait que je suis bègue plutôt que de régler le problème?
Bien, je dirais pas que c'est un échec de la profession, c'est une redéfinition de la profession.
Oui, mais est-ce que cette redéfinition-là vient du fait de l'échec précédent qui était de ne pas être capable de régler le problème?
Ben, pour moi, l'échec de la profession, c'est d'avoir essayé par toutes sortes de moyens de régler le problème. Mais encore là, c'était une réaction normale et culturelle à cette époque-là, tu sais. Maintenant, on sait que essayer d'emmener la personne à bégayer le moins possible, ben ça a des impacts extrêmement négatifs sur elle parce que justement, le bégaiement partira pas.
OK, fait qu'il n'y a pas moyen de le régler. De régler.
Mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi, régler?
Ben pour moi, ne pas bégayer, c'est d'arriver à parler fluidement sans que ce soit un problème pour moi.
Donc, ne pas être bègue.
Exact.
Mais non, tu ne peux pas ne pas être bègue.